Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission de rentrée consacrée aux droits humains. Et pour ce retour à l'antenne, j'animerai l'émission avec Erika. Bonsoir Erika, ça va ?
Bonsoir Valérie, oui,
un bel été ?
Oui, super.
Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Eh bien, dans cette émission de rentrée, nous allons accueillir Aurélie et Clémentine, qui sont les représentantes du planning familial 49. Nous parlerons également de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Et on a également deux belles chroniques. Mais commençons tout d'abord par ton éditorial, Erika.
Oui, je ne sais pas toi, Valérie, mais j'ai une énorme pile de livres à lire. Tellement grande qu'il m'est arrivé d'acheter deux fois le même bouquin parce que j'avais oublié que je l'avais déjà. C'est ce qui m'est arrivé cet été et grand bien m'en a pris. Je n'aurais jamais pu conseiller à ma fille de 17 ans de lire un vieux roman, enfin selon elle, de 2009, de 671 pages, au format poche. Bref, cet été, j'ai lu l'œuvre de Maud Mermillon, l'adaptation en roman graphique du Cœur des femmes de Martin Winkler.
Et pourquoi tu veux nous parler de cette lecture estivale ?
Il y a des livres comme ça qui nous marquent et qui rapidement font écho à l'actualité, toujours et encore, malheureusement, malgré le temps qui passe. Ce doit être pour cela que ce roman graphique a toute sa place en 2025.
Mais c'est une fiction, je crois, ce roman.
Oui, mais Martin Winkler, de son vrai nom Marc Zaffran, est médecin. Et il avertit le lecteur lui-même au début de son roman. Ce livre est un roman. Les personnages, l'unité 77, la ville de Tourmence, son CHU et les événements qui s'y déroulent sont imaginaires. Mais presque tout le reste est vrai.
Et qu'est-ce qui est vrai ?
Le corps des femmes, leurs paroles, leur dignité. Trop souvent, ils sont ignorés ou minimisés. Les femmes continuent de subir des violences médicales, des discriminations dans l'accès aux soins, et des enfants intersexes sont opérés sans consentement dans plusieurs pays européens, encore en 2025. Ces faits ne sont pas de simples statistiques, ce sont des existences niées, des corps suppliciés, des voix étouffées. En lisant ce livre, je me suis retrouvée face à la question du respect, de l'écoute et de la confiance. Comment entendre vraiment ce que les femmes disent et comment agir quand leur parole est niée ? Ce roman graphique met en lumière un combat quotidien, souvent invisible, celui du droit des femmes à être entendues et à décider de leur corps. Mon compagnon lisait pendant ce temps un recueil de courtes pièces d'autrices dans le cadre du festival Paris des femmes, Le Secret. L'un des textes reprenait le témoignage d'une femme tentant à de nombreuses reprises de déposer plainte suite à des violences sexuelles subies, mais en permanence minimisées par les policiers et les policières. Le rapport 2025 de l'Agence européenne des droits fondamentaux, sorti le 17 septembre dernier, montre une hausse alarmante des violences et discriminations contre les personnes intersexes depuis 2019. Il pointe principalement la désinformation comme responsable. Une personne intersexe sur trois a été agressée physiquement ou sexuellement au cours des 5 années précédant l'enquête, selon le communiqué qui accompagne le rapport, qui évoque un groupe extrêmement marginalisé.
Alors ça veut dire que lire Le Cœur des femmes et soutenir Amnesty, c'est un peu la même idée. Donner la parole à celles et ceux qui sont invisibilisés.
Bien sûr, Amnesty International agit sur plusieurs fronts. Pour toutes les minorités et pour les femmes, nous dénonçons les violences, le harcèlement, les discriminations dans l'accès aux soins et à l'éducation partout dans le monde. Nous menons des campagnes de sensibilisation, soutenons les victimes et faisons pression sur les gouvernements pour que les lois soient respectées et renforcées. Amnesty International demande l'interdiction des interventions chirurgicales sur les enfants intersexes sans leur accord, accompagne les femmes et plaide pour le respect du consentement et de l'intégrité corporelle. Notre organisation rappelle que le respect des droits humains inclut toutes les identités et orientations et qu'aucune personne ne doit être laissée de côté.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire ?
Lire ce livre déjà ? Il est vraiment à la fois très instructif et formidablement émouvant. Puis rejoindre Amnesty, participer aux événements de défense des droits comme le 8 mars, la marche des fiertés, relayer l'information. Il s'agit aussi de participer à toutes les initiatives qui rappellent que nous sommes égaux en dignité et en droit, que personne ne peut prétendre qu'il existerait une hiérarchie entre les êtres humains. Oui, à Angers, certains groupes ou financements d'extrême droite tentent hier comme aujourd'hui de semer la division plutôt que le dialogue et le respect. Mais notre responsabilité, c'est de refuser ces logiques d'exclusion et de construire ensemble une société plus juste, plus belle, plus humaine. Car si agir ne garantit pas toujours le succès, ne rien faire garantit toujours l'injustice.
Merci Erika. Et vous êtes toujours sur Radio G dans l'émission Droit Devant, 101.5 FM. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Aurélie et Clémentine qui sont militantes bénévoles au Planning Familial 49. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler les grandes missions de votre bel asso?
Le planning familial est sur diverses missions, alors notamment ce qui va être autour de l'accès aux droits, autour de la santé sexuelle, les droits reproductifs, également sur tout ce qui est éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les milieux scolaires ou hors milieu scolaire, ça peut être dans des associations, des lieux divers et variés selon les sollicitations. C'est également un lieu où il est possible d'être accueilli avec ou sans rendez-vous pour toutes et tous. Autour de ce qui est contraception, santé sexuelle, relations. Et c'est également aussi un lieu de formation pour les professionnels autour de ces mêmes sujets. Puis aussi, il y a aussi des espaces de prévention au niveau de la réduction des risques, régulièrement des stands qui sont tenus.
On est une association militante, féministe, d'éducation populaire, et je trouve que c'est important de mettre la dimension politique, pas partisane,
politique vraiment, dans le vrai sens politique.
Ouais, la question du politique, elle est importante, et aussi le côté militant, parce que ce qu'on voit, c'est que les droits humains, ça a toujours été une bataille et ça reste une bataille encore aujourd'hui. Et ça, c'est une grande partie aussi de ce pourquoi on tient à ce côté-là.
Et justement, là, il y a une prochaine journée internationale, celle pour le droit à l'avortement. C'est toujours d'actualité alors que c'est maintenant dans la Constitution?
Oui, c'est toujours d'actualité ce combat-là. De toute façon, on le voit bien déjà aussi au niveau international. Mais même en France, la bataille par rapport au droit à l'avortement, il existe forcément quand on voit le nombre de lieux, les maternités qui ferment. Et pour qu'il y ait un centre IVG, il faut que ça soit relié avec un hôpital et une maternité. Quand on sait, il y a une enquête IFOP qui a été commandée par le planning familial l'année dernière et qui va dire que il y a encore de grandes inégalités d'accès en France par rapport à l'accès à l'avortement, notamment pour les personnes qui vivent en ruralité, pour les personnes qui sont immigrées et qui ont des difficultés d'accès à leurs droits, pour les personnes mineures, pour les personnes précaires, ça reste encore aujourd'hui difficile d'accès, et puis ça reste aussi encore beaucoup un tabou, et les attaques contre le droit à l'avortement, elles existent encore pas mal ici.
À Angers même.
À Angers, on a eu en 2022, il y a eu une manifestation pour soutenir les Américaines, et là il y a eu des personnes, ça a été revendiqué par le RAID à Angers, avec une banderole avec écrit avortement égale solution finale. Ils sont venus avec des fumigènes pour pouvoir empêcher notre manifestation. Cette même année, le 28 septembre, il y avait une manifestation aussi qu'on avait menée, et où des personnes sont venues dans le cortège pour pouvoir aussi nous empêcher de circuler. Cette année, au moment du 8 mars, il y a eu à Angers des bracelets de naissance distribués un peu partout autour de la faculté de Belbeil, avec dessus, renvoyant vers un numéro d'un site anti-choix. Oui, parce que nous, les personnes qui s'appellent les provis, on les appelle les anti-choix.
Bien vu.
Et puis en Vendée aussi, encore le 8 mars, il y a eu une dépose d'une gerbe de fleurs devant l'antenne départementale à La Roche-sur-Yon, avec un petit mot, je cite, hein, pour les 236 000 bébés tués depuis l'année dernière à l'année prochaine.
Ouais.
Et ça, c'est des attaques qu'on voit encore cette année, quoi.
Et peut-être même qui se développent, mais donc il faut rien lâcher, c'est ce que vous êtes en train de dire. Malheureusement, au niveau finance, on vous aide pas, au contraire. Peut-être que vous avez envie d'en parler.
C'est une année qui a été marquée par les coûts budgétaires au planning familial, enfin les coûts budgétaires de la région Pays de la Loire, qui doit être plutôt connue malheureusement dans le coin, parce que
on en parle beaucoup au niveau culturel, artistique, mais le social a été terriblement touché, dont le planning, et pas que d'ailleurs.
Oui, ça fait des interventions en moins dans les lycées, dans les MFR. En fait, concrètement, ça se traduit vraiment sur le terrain, des interventions qui étaient financées par la région et qui ne pourront malheureusement pas avoir lieu.
Et puis ça fragilise aussi le poste de la coordinatrice régionale du planning familial, et son poste, il est essentiel pour nous, pour l'antenne départementale du Maine-et-Loire, mais pour les autres aussi dans la région. Son poste est en danger à l'heure actuelle.
Oui, donc le planning familial, c'est des professionnels, mais aussi des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu comment ça se passe au planning ?
Au niveau local en particulier.
Oui.
Au niveau local, eh ben, il y a une AD avec des locaux qui se situent à Angers. Il y a aussi un groupe local
à
Saumur.
C'est à quel endroit ? À Angers.
C'est à la Roseraie, c'est au niveau de l'arrêt de tramway Jean 23, enfin et arrêt de bus, rue André Mauroy. Et il y a une grande fresque colorée avec des femmes, et c'est juste derrière, au niveau du pôle associatif Benoît de Groux. Et voilà, enfin il y a des, en tout cas la possibilité
de
rejoindre.
Tu disais Saumur.
Saumur, il y a un groupe local, il y a une permanence, mais il y a pas de Cholet, il y a plus.
Ouais.
Il y avait. Pardon.
Ouais, et Mary Choletez est peut-être pas très pro planning.
Et du coup, enfin voilà, il y a la possibilité de venir en tant que bénévole au planning familial, que ça soit pour des missions, soit de tenir justement des stands de prévention, faire partie du CA, d'aller faire de la communication. L'année dernière, il y a eu une conférence qui a été organisée avec une historienne sur les femmes et la Palestine par le groupe bénévole aussi, par exemple.
L'historienne, c'est la coordinatrice régionale du planning familial.
D'accord.
Sandrine Mansour.
Enfin, et voilà. Et au niveau des salariés du planning, il y a des professionnels de la santé.
Alors en fait, au niveau planning familial, il y a deux sortes d'associations départementales. Il y a ce qu'on appelle des CSS, des centres de santé sexuelle, c'est ce qu'on appelait avant des centres de planification.
D'accord.
Donc des centres de planification, il y en a à Angers par exemple.
Parler de la contraception des.
Oui, c'est des centres aussi où on pratique l'IVG. IVG chirurgicale quand c'est dans un hôpital, mais IVG médicamenteux aussi quand c'est hors hôpital. Il y a des CSS qui sont des plannings et d'autres qui ne le sont pas. À Angers, c'est pas des plannings. À Angers, le planning familial, c'est pas un CSS, c'est un EVARS, c'est-à-dire un espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, les EVARS sont pas médicalisés. D'accord. Dans les EVARS, ce sont des conseillères conjugales et familiales, animatrices de prévention. Voilà, c'est de l'accueil et de la formation et des animations.
Et est-ce que vous avez envie de nous parler d'une action peut-être à venir ou une action forte ou passée, pourquoi pas ?
Il y a quelque chose qui est en train de se finaliser là au niveau, donc là c'est du travail salarié que je trouve intéressant parce que ça a été tout un projet, ils sont en train de finaliser un projet de film autour d'un projet auprès d'adolescentes au niveau de la Roseraie, qui sont des ambassadrices. Je crois pas me tromper en disant que je crois bien qu'il y a que des adolescentes dans ce programme, mais voilà, si je me trompe, tant pis. Pour pouvoir aller être ambassadrice auprès des personnes de leur âge, en fait, et donc qui ont été formées par les salariés du planning. Et là, il y a un film qui s'est fini la semaine dernière, enfin fini de tourner, hein. Donc ça, c'est quand même hyper chouette. Et puis peut-être au niveau bénévole, eh ben on est co-signataire de la manifestation contre les nuits du bien commun le 1er octobre à 18h30. Ça, c'est important pour nous parce que effectivement, ça va dans l'idée de lutte contre les idées d'extrême droite, parce que tout ça, c'est lié. L'extrême droite, c'est l'ennemi du droit à l'avortement. On le sait depuis le début, depuis
l'ennemi du choix.
L'ennemi du choix, tout à fait. Et encore maintenant, hein, c'est vrai qu'ils peuvent nous être reprochés un manque de neutralité par rapport à ça, mais pour nous c'est important. C'est-à-dire que quand je parlais de la gerbe en Vendée qui a été déposée, il a été déposé par la sœur d'une autre personne qui a déclaré la manifestation du 9 mai à Paris. Donc en fait, on est là-dedans. Ce sont les mêmes personnes et c'est ces personnes-là qui nous attaquent.
Donc on entend parler de ces personnes, là beaucoup de gens connaissent le planning familial, mais comment fait-on justement pour vous contacter ?
Vous avez donné l'adresse, est-ce qu'il y a un mail, un site, un numéro ?
Oui, il y a toujours le site internet, enfin si vous tapez planning familial 49, vous tomberez dessus. Sinon il y a une adresse mail qui est contact@planningfamilial49.fr. Et sinon, il y a un numéro vert qui est pour toute question 0800 08 11 11. Et sinon, le numéro de l'AD, c'est le 02 41 88 70 73.
AD, ça veut dire antenne départementale.
Merci beaucoup. On se retrouve après une pause musicale.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
Vous venez d'écouter la chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens, une magnifique chanson où il est question de l'empathie, une belle attitude qui se raréfie. Et savez-vous qu'Elon Musk a brocardé récemment l'empathie en la considérant comme la faiblesse fondamentale de la civilisation occidentale. Bien évidemment, que ce soit les amnestiens, Brassens ou des personnes éminentes telles que Hannah Arendt ou vous-même, eh bien, on n'est pas du tout d'accord avec le multimilliardaire. Allez, de retour dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM, c'est bientôt l'heure des actualités, mais avant, on va découvrir la chronique de l'antenne jeune angevine d'Amnesty, qui est écrite ce mois-ci par Eulalie. Elle nous parle de la défense de l'environnement.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on veut vous parler d'un sujet brûlant, mais qui est souvent oublié, la protection des défenseurs d'environnement. Parce que oui, défendre la planète, c'est aussi défendre un droit humain fondamental, tel que l'accès à l'eau. En 2022, un pas important a été franchi au niveau international. L'ONU a créé un tout nouveau poste, le poste de rapporteur spécial sur les défenseurs d'environnement. Il a été établi dans le cadre de la Convention d'Aarhus. C'est un traité européen qui garantit à chaque citoyen l'accès à l'information, la participation aux décisions environnementales et l'accès à la justice. C'est donc un texte qui va reconnaître que nous avons toutes et tous le droit de nous exprimer, d'agir et d'être entendus quand il s'agit de protéger notre environnement. Le rôle de ce rapporteur, il est aujourd'hui occupé par Michel Forst, et il est clair, il doit veiller à ce que personne ne soit pénalisé, harcelé ou persécuté pour avoir exercé ce droit à défendre l'environnement. Et c'est la première fois qu'un tel mécanisme de protection existe dans un cadre juridiquement contraignant. Et pourtant, sur le terrain, les attaques contre les défenseurs d'environnement se multiplient. En France, on voit une recrudescence inquiétante des violences contre les associations environnementales. En novembre et décembre 2024, des locaux de la Ligue pour la protection des oiseaux de France Nature Environnement mais aussi des bâtiments de l'Office français de la biodiversité ont été vandalisés et leurs employés ont été menacés. Et depuis le début de l'année, c'est plus d'une cinquantaine d'attaques qui ont été recensées contre les agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. C'est un signal d'alarme qu'il est important d'écouter. Et ce climat de tension, il se retrouve dans des décisions administratives et judiciaires. En juillet 2025, dans le Tarn, le préfet interdit tout rassemblement contre le projet très contesté d'autoroute A69. Deux jours plus tard, 16 militants écologistes vont être condamnés à des amendes simplement pour s'être opposés passivement à des travaux dits d'utilité publique. Cette répression, elle ne s'arrête pas aux frontières de la France. Aux États-Unis, en janvier 2025, Donald Trump, de retour au pouvoir, a censuré toutes les recherches liées au changement climatique. Pire encore, le terme même de changement climatique a été banni des institutions scientifiques. Les chercheurs américains sont donc sommés de réécrire leur vocabulaire afin de continuer à obtenir des financements. C'est une atteinte directe à la liberté d'expression académique, mais également à l'indépendance de la recherche. Pourtant, le droit international est clair sur la question. La désobéissance civile non violente est reconnue comme un moyen légitime d'exercer la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique. Ces deux libertés sont d'ailleurs garanties par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, que fait-on ? Chez Amnesty, on rappelle que les défenseurs de l'environnement sont aussi des défenseurs des droits humains. Leur engagement est vital, pas seulement pour les arbres ou les rivières, mais pour notre avenir commun. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin de notre solidarité. Merci de votre attention.
De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, c'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty et des droits humains.
Alors qu'un rapport de l'ONU vient de reconnaître le génocide à Gaza commis par l'État d'Israël, des entreprises continuent à s'enrichir et à tirer profit des immenses souffrances du peuple palestinien. Dans le dernier rapport d'Amnesty, nous dénonçons 15 entreprises qui contribuent à ces crimes. Ces entreprises appartiennent en particulier au secteur de l'armement et des technologies de surveillance. Citons pour exemple les multinationales américaines de la défense Boeing et Lockheed Martin. Il est inacceptable que des États et des entreprises qui savent qu'ils tirent leurs revenus de la mort, de la destruction et de l'immense souffrance de la population palestinienne décident malgré tout de détourner le regard, de maintenir leurs modèles économiques sans se préoccuper du coût humain et de se complaire dans leurs richesses.
On parle évidemment encore de la Palestine. 10 pays dont la France reconnaissent officiellement l'État palestinien en vue du sommet sur l'avenir de la solution à deux États en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Mais n'oublions pas qu'en Europe et dans le reste du monde, on observe un mouvement inquiétant du recours à des législations antiterroristes ou des législations relatives à la sécurité pour empêcher l'expression de la solidarité avec le peuple palestinien. Ainsi en France, rappelez-vous, le ministre de l'Intérieur, le futur ex-ministre Bruno Retailleau avait annoncé son intention de dissoudre Urgence Palestine. Et puis très récemment, le samedi 6 septembre au Royaume-Uni, devant le Parlement à Londres, près de 900 personnes qui manifestaient pacifiquement ont été embarquées par les forces de police, tout simplement parce qu'elles apportaient leur soutien à Palestine Action, l'association interdite depuis le mois de juillet au Royaume-Uni.
En Pologne, le réseau social X contribue à propager la haine, en particulier à l'encontre des personnes LGBTI+. Sur la plateforme, c'est le règne de la violence, de la haine et de l'impunité. Pourtant, X, comme toutes les plateformes de ce type, a l'obligation d'évaluer et d'atténuer les risques de violation des droits humains au niveau européen. Dans ses propres rapports, l'entreprise indique qu'elle n'emploie que 2 personnes pour la modération des contenus en Pologne, dont l'une pour qui le polonais n'est pas la langue maternelle. C'est totalement insuffisant, pourtant, consciente de ces dérives insupportables, X ferme les yeux.
Le Népal, on n'en parle pas souvent, le Népal connaît actuellement un mouvement de contestation de grande ampleur. Révolté contre la corruption et contre l'interdiction gouvernementale des réseaux sociaux, la jeunesse est descendue massivement dans les rues pour exiger le respect de ses droits. Les mobilisations ont entraîné la chute carrément du gouvernement en seulement 2 jours. Les négociations entre les différents groupes politiques ont finalement abouti à la nomination d'une femme, l'ancienne juge en chef de la Cour suprême. Elle s'appelle Sushila Karki. C'est la première ministre maintenant par intérim. En parallèle, la Chambre des représentants a été dissoute et le gouvernement est tenu d'organiser des élections d'ici mars 2026. Bien évidemment, pour construire l'avenir, il est indispensable de mettre fin à l'impunité du passé, qu'il s'agisse des violations des droits humains ou de la corruption.
Depuis la chute du régime sanglant de Bachar al-Assad, la Syrie a basculé dans un contexte de violence interconfessionnelle et d'impunité générale. Parmi les minorités victimes de violences croissantes, il y a le peuple druze, une communauté religieuse issue d'une branche de l'islam chiite. Mi-juillet, à Souaïda, dans le sud de la Syrie, 46 personnes druzes non armées ont été froidement abattues, chez elles, dans la rue, dans des écoles et des hôpitaux. L'enquête d'Amnesty, basée sur des vidéos et des témoignages, a révélé que les auteurs de ces crimes étaient des membres des forces gouvernementales et affiliés.
Et pour finir, de l'espoir avec Claudia Sheinbaum. Elle a remporté l'élection présidentielle mexicaine. Elle doit sa victoire à des thèmes majeurs, l'écologie mais également la condition des femmes. Dans ce pays, 70% des Mexicaines ont subi une forme de violence dans leur vie et 10 femmes sont tuées chaque jour. Un fléau qu'elle compte combattre, notamment avec la création d'un programme qui prévoit l'expulsion de l'agresseur du foyer, mais surtout l'ouverture d'un bureau du procureur spécialisé dans les féminicides. Le 15 septembre dernier, la veille du jour anniversaire de l'indépendance du pays, elle a poussé le fameux grito, le cri qui appelle la justice, la liberté, l'indépendance et la souveraineté du peuple mexicain. Un symbole fort face aux tentatives d'ingérence états-unienne. Et c'est l'heure d'écouter maintenant la chronique de Céline pour ce début de saison qui nous parle des personnes sans abri à Angers.
Bonsoir Valérie. Septembre. Il est temps pour moi de reprendre les chroniques de SOS Migrants. Et ne vous y trompez pas, même si ces chroniques prennent une pause estivale, les veilleurs et les jokers ont continué tout l'été à être attentifs et à accueillir ceux qui n'avaient pas de toit. Et aujourd'hui, je peux donc recommencer à te parler du quotidien. Le 19, par exemple. Ça aurait pu être une journée toute simple, mais... Message de Anne à 10h45. La grande famille russe n'a pas de place. Nous cherchons pour les 3 jours, mais c'est difficile. Une piste pour un hôtel est envisagée. Puis, Jérôme, finalement, propose de les héberger. Mais impossible de les joindre, ni la famille, ni l'interprète. Quand nous y arrivons, il est 16h. Daniel nous informe que tous les jeunes sont placés au 115, mais Youssouf, 15 ans, guinéen, est terrifié à l'idée d'y retourner et il supplie pour qu'on lui trouve autre chose. Mais il faut aussi s'occuper d'une famille avec 2 bébés. Nous cherchons dans nos réseaux et nous y passons la journée. La famille ira finalement chez un joker et Youssouf chez des amis de Daniel. Et puis Valérie, septembre rime aussi avec rentrée. Je voudrais te parler de Fatou qui dort à l'internat et dans une famille qui l'accueille le week-end, qui ne parle pas beaucoup de sa situation, mais qui a des copines formidables qui lui prêtent des affaires pour aller en cours de sport. De Jamal, qui refuse l'internat pour ne pas laisser sa maman toute seule dans la rue et qui se fond dans la masse des élèves de son établissement chaque matin. De ses petits et plus grands élèves qui sont fatigués dès le matin, mais arrivent à l'école avec des sourires lumineux.
Nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Le 26 septembre à 20h, conférence débat ayant pour titre « Extrême droite, le poids du travail sur les bulletins de vote ». C'est à la Bourse du Travail à Angers en présence de Thomas Coutreau, statisticien, économiste et militant associatif. C'est organisé par Visa 49, un groupe de syndicats antifascistes angevins.
Toujours à la Bourse du Travail, une invitation à une rencontre sur les enjeux environnementaux le samedi 4 octobre. Alors d'abord, de 14h30 à 16h, le débat porte sur l'alimentation, grande cause populaire. Et puis, de 16h30 à 18h, second débat sur la problématique nourrir l'humanité ou sauver le climat, que choisir. L'entrée sera libre et gratuite avec aussi des expos et des stands.
Au 400 coups en avant-première, le mardi 30 septembre à 20h, allez voir le film Un simple accident, réalisé par l'Iranien Jafar Panahi. C'est la Palme d'Or de Cannes 2025. L'histoire se passe en Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire.
Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez au 400 coups pour une soirée rencontre autour du délectable film de Benoît Delépine et Gustave Carverne, Effacer l'historique, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est organisé dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, ayant pour thématique cette année, pour ma santé mentale, réparons le lien social.
Et n'oubliez pas, chaque samedi, on se retrouve pour demander le cessez-le-feu à Gaza, place du ralliement, à 15h.
Il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Aurélie et Clémentine pour leur venue. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.org. À très bientôt sur les ondes de Radio G.
Bonne soirée.
Bonne soirée.